Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Les Prépondérants, d'Édicadour, à paraître aux éditions Gallimard.
Le début d'un roman de Stendhal, Lucien Levène. Lucien Levène avait été chassé de l'école polytechnique pour s'être allé promener mal à propos un jour qu'il était consigné, ainsi que tous ses camarades. C'était à l'époque d'une des célèbres journées de juin, avril ou février 1832 ou 1834. Quelques jeunes gens assez fous, mais doués d'un grand courage, prétendait détrôner le roi. Et l'école polytechnique, qui est en possession de déplaire au maître des Tuileries, était sévèrement consignée dans ses quartiers. Le lendemain de sa promenade, Lucien fut renvoyé comme républicain. Fort affligé d'abord, depuis 2 ans, il se consolait du malheur de n'avoir plus à travailler 12 heures par jour. Il passait très bien son temps chez son père, homme de plaisir et riche banquier, lequel avait à Paris une maison fort agréable. Monsieur Levène père, l'un des associés de la célèbre maison Van Peters, Levène et compagnie, ne redoutait au monde que 2 choses, les ennuyeux et l'air humide. C'était donc le début de Lucien Levène de Stendhal. Je ne sais pas si c'est un modèle de tous les incipits. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les choses se mettent en place dans un rythme superbe, très vite, et l'essentiel y est. C'est-à-dire qu'on a à la fois le personnage et on a le contexte en même temps, en quelques phrases. On a l'individu, on a l'histoire, on a le conflit, on a déjà une façon de construire le personnage. C'est, je crois, assez virtuose, tout en n'ayant absolument pas l'air d'être virtuose. Ça se présente sous la forme d'une apparente simplicité. Mais quand on écrit, on sait qu'on a là affaire à du très grand. Il m'arrive de passer par des incipits qui sont un peu plus difficiles, un peu plus longs, qui demandent de s'accrocher parce qu'ils sont tout de suite très denses. Vous voyez par exemple l'incipit de la mort de Virgile de Hermann Broch, qui est magnifique, ou l'incipit du hameau de Faulkner. Ce sont des choses qui sont très denses, qui demandent beaucoup de volonté d'insertion de la part du lecteur. En ce qui me concerne, je leur préfère des choses plus allantes, qui se mettent en place plus rapidement.
Alors, on va entendre l'incipit, en l'occurrence, et plus que ça, les premières pages de votre nouveau roman, Édicadour, Les Prépondérants, qui paraît aux éditions Gallimard à l'occasion de la rentrée littéraire.
Nabès, Afrique du Nord, début des années 1920. Chapitre 1, Un arbre dans le vent. Elle lisait plus de livres en arabe qu'en français. Ça avait rassuré son père, mais il avait fini par se rendre compte que certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. Elle s'appelait Rania, 23 ans, sculpturale, des yeux en amande. C'était la fille de Simabrouk, Mabrouk Belmejdoub, un grand bourgeois de la capitale, ancien ministre du souverain. Elle était veuve, son mari était mort quand elle avait 19 ans. Il était beau, il s'adorait. Il avait lui aussi le goût des livres, et comme il y ajoutait celui du combat, il avait disparu dans un fracas d'obus en Champagne. Elle était retournée vivre dans la maison de son père, à qui il arrivait de dire « Nous avons chacun perdu notre moitié ». Au bout d'un an, il avait commencé à lui chercher un nouveau parti. Elle ne refusait pas les prétendants. « Si tu veux que j'épouse cet imbécile, j'obéirai ». Et c'était le père qui se retrouvait au bord des larmes, parce que sa fille ajoutait « Ce sera comme une tombe avant la mort ». L'imbécile ait été conduit. Quand un autre homme se présentait, elle le qualifiait sans trop attendre. C'était un violent, un édenté ou un malpropre ou un profiteur. elle ne se perdait pas en détails. Elle rassurait pourtant son père, elle finirait par trouver un bon parti. Il s'inquiétait, parce qu'elle avait comme un handicap, elle était plus grande que la moyenne des hommes, elle soutenait leurs regards, avec l'allure de celles qui, dès l'enfance, ont fait tenir un panier sur leur tête. Le panier, personne ne l'y avait obligé, elle avait voulu faire comme les domestiques. Pour la pousser à être un peu moins difficile, sa vieille servante avait un jour lâché un dicton. La pomme restée par terre, les vers s'y mettent. Elle avait répondu qu'elle n'était pas un fruit. Quant au livre, elle en discutait avec son père comme elle l'avait fait avec son mari, et elle ne tenait pas à devenir la femme de quelqu'un qui lui demanderait d'y renoncer. Le frère aîné de Rania, Taïeb, la poussait aussi à se remarier. Il était uni à une femme dont la famille était encore plus puissante que la leur et qui l'obligeait à filer doux. « Il a raté son mariage, » disait Rania. « Il faudrait que le mien soit pire. » Son père la protégeait, mais il n'oubliait pas qu'un jour Taïeb hériterait de l'autorité. Au milieu de l'hiver 1920, l'oncle Abdeslam, un propriétaire des environs de Nabès, une ville du sud, avait demandé à Rania de venir diriger sa maison. Sa femme était malade, alitée. Rania avait accepté et Simabrouk avait donné son accord, soulagé de la voir un temps s'éloigner des lieux du chagrin, des pressions de Taïeb et de certaines amies dont les maris étaient de plus en plus hostiles au protectorat que la France avait installé sur le pays. Rania aimait la ferme, elle y était souvent venue prendre le bon air dès qu'elle avait su marcher. Elle avait planté des arbustes, mené des chèvres, creusé des rigoles, fauché de l'orge à la serpette. Elle avait longtemps élu domicile dans un gros figuier à cabane et balançoire, jusqu'au jour où sa tante avait décidé que ce n'était plus convenable. Elle avait remplacé le séjour dans l'arbre par des escapades à travers champs et connaissait le moindre recoin des 900 hectares de la propriété. On avait fini par lui interdire de la parcourir, sans être vêtue de façon décente et pieuse et accompagnée de deux servantes. Elle n'était plus retournée à la ferme depuis son mariage. Son oncle était venu la chercher à la gare de Nabès. Elle avait fait le tour de la voiture. « C'est une Renault ? Tu t'intéresses à ces choses ?» avait demandé l'oncle. « Une veuve peut s'intéresser à des choses licites. C'est licite pour l'homme, pas pour la femme. La voiture, c'est peut-être ce qui me fera reprendre un mari. » Elle répondait. L'oncle s'était dit qu'il vaudrait mieux la renvoyer, mais sans vexer son frère. Il attendrait. Elle avait embrassé sa tante, demandé à son oncle le nom du médecin qui la soignait. C'est le docteur Pagnon. C'est un boucher. Il dit qu'elle va mieux. Berthomier est toujours là, fais-le venir. C'était un ordre. Le docteur Berthomier, la mine sombre, avait prescrit des calmants pour les douleurs. Rania avait continué à donner des ordres. Elle avait pris la domesticité en main. Tu t'occuperas de tout ce qui concerne la maison, comme ma femme, avait dit Abdeslam. Moi, je continue à m'occuper des terres, du bétail et de la vente. Elle avait vite compris que la femme s'occupait également des terres, du bétail, de la vente, et qu'on la craignait bien plus que son mari. Là encore, la jeune veuve était devenue indispensable. Personne ne maniait les chiffres comme elle. Et pendant qu'elle assurait toute l'intendance, son oncle pouvait continuer à s'occuper de l'essentiel, les séances de lettrés et aussi de buveurs qu'il organisait chez lui deux fois par semaine. Une assemblée composite, d'hommes eux-mêmes composites, des conservateurs imbus de réforme, des rationalistes qui se mettaient à vénérer des marabouts dès que leur diabète se faisait menaçant. « Risalat Tawhid » avait-elle dit un matin en rangeant les livres qui étaient restés au salon, au milieu des bouteilles. Devant la tête de son oncle, elle avait ajouté « C'est bien ce qui est écrit sur la couverture. » L'oncle n'avait pas été dupe. Elle connaissait ce qu'elle tenait en main, la lettre sur l'unicité de Mohamed Abdou, qui passait pour un athée. Il eut un vertige. Il fit ouvrir les malles de sa nièce. Il y trouva des romans égyptiens parlant de libération de la femme, la collection Hachette des grands écrivains, Rousseau, Hugo, et même un cours de philosophie positive. Sa nièce voulait en savoir plus que les hommes. Ce n'était bon ni pour elle, ni pour la famille. Il osa téléphoner à son frère. « C'est trop tard, » lui dit Simabrouk. « Tu veux que je l'empêche de lire ? Que je la batte ? Que je l'enferme ? J'ai voulu avoir une petite fille merveilleuse. Elle a grandi. Comment va ta femme ?» La conversation avait été longue Elle s'était conclue dans la froideur. L'oncle avait annoncé à sa femme que Rania faisait ses bagages. Elle repartait dans la capitale. La tante n'avait rien dit. Une femme, ça se soumet. Mais son regard avait suffi à désarçonner son mari. Le voile de la mort. On ne peut rien contre ce que la mort fait passer dans les yeux des femmes. On les en a toujours menacées. Et depuis, elle est là, agitant ses plis derrière le moindre de leurs actes de soumission. Le plus dur avait été d'obtenir de Rania qu'elle accepte de rester. « Mon père ne sera pas content qu'on me traite comme un sac. » L'oncle avait fini par dire « Je ne t'oblige pas, c'est pour elle. Pour qui ? Pour elle et pour nous tous. » Rania avait accepté et quitté le salon en raflant au passage les œuvres de Jamaluddin Al-Afrani, autre dangereux réformateur, et les nécessités d'Al-Ma'ari, un poète. « Dis à tes amis que je les rendrai. » Elle ne l'avait jamais fait. Je passe maintenant un peu plus loin à la façon dont elle s'occupe des terres. Elle passait en charrette dans les champs, à la première heure, pour organiser les travaux. On la revoyait à la pause, sous le ciel sans fissure de la mi-journée. Elle apportait du tagine de mouton, des tomates, des fruits, et les gens qui la bénissaient ne recommençaient jamais, car elle disait que les patrons qui se faisaient bénir n'étaient que des païens et leurs bénisseurs des hypocrites. Personne n'osait aller à l'encontre de ce qu'on sentait qu'elle voulait, le travail bien fait, à temps, sans querelle ni paresse. La charrette était rouge, on la voyait de loin. Elle revenait à la fin de l'après-midi pour le bilan. « Cette femme a un œil de maître, » disaient les paysans, « l'œil qui engraisse le bétail. » En rentrant à la ferme, elle aimait descendre et marcher seule devant la charrette, entendre la terre grésiller, laisser l'air jouer sur son visage, marcher avec la sensation d'être en avant d'elle-même. Les derniers rayons du soleil envoyaient une lumière douce sur les grosses raquettes vertes des cactus qui bordaient un champ. Dans le ciel, où le bleu commençait à s'assombrir, il y avait un unique petit nuage. Ma pensée peut aller jusqu'à ce nuage. Ici, lui avait écrit son mari pendant la guerre, nous avons des nuages gris pour la pluie et des nuages jaunes pour la mort. Rania longeait un autre champ, respirait l'air qui venait de la mer en coups de vent. Le vent est le compagnon des veuves. Ses yeux s'attardaient sur le colza. Son oncle avait voulu le colza pour faire plaisir aux Français. C'était idiot, du colza en pays de palmiers et d'oliviers. Pas idiot pour eux. La colonie doit produire pour la métropole, disait-il. Idiot quand même. Elle gardait pourtant le colza, pour le bétail, parce qu'elle aimait la grande claque jaune de la floraison, et parce qu'un colon qui venait chez son oncle lui avait un jour dit en lui montrant un champ qui fleurissait, « Ça commence ici, et, semaine après semaine, le jaune va surgir en Italie, puis en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, jusqu'à l'Oural, le grand voyage du colza. » Elle dépassait le champ, longeait des herbes folles, rêvant parfois. Les événements du jour sont comme des herbes folles. Ma vie n'a plus d'herbes folles. Je vis dans deux prisons. La deuxième, ce sont les parois de mon cœur. Se faire des herbes folles au fond du cœur. Je lui ai écrit une lettre et tout est dans sa main, avec mes larmes. Je n'ai pas envoyé cette lettre. Je l'ai brûlée. J'étais comme cette feuille devant la flamme, se rétractant. Il faut cacher. L'amour qui se montre est en péril. Après Savoir vivre, j'avais en arrière-plan l'idée d'un, à la fois d'un roman d'aventure, en même temps une histoire de désir, et puis peut-être quelque chose qui serait déroulé dans un espace un peu élargi. J'étais un peu tenté par un roman monde, mais je n'arrivais pas à trouver, au fond, l'univers dans lequel ça aurait pu se déployer. Je pensais évidemment à quelque chose qui avait trait à la relation entre la France et le Maghreb autour des années 20, qui me paraît être une période assez cruciale, en quelque sorte un temps des occasions ratées au début des années 20. Et puis un jour, je suis tombé dans la presse américaine sur une histoire de cinéastes américains qui venaient tourner une partie de leur film au Maghreb. C'était à l'époque des grands films orientalisants, des histoires de chair. Et donc, il venait au Maghreb parce qu'il y avait évidemment des palmiers, il y avait tout le décor de l'Orient. C'était beaucoup moins loin que le Moyen-Orient. Et il y avait l'infrastructure des protectorats français. Et c'était une génération américaine qui parlait assez couramment le français. Des gens comme Louis Brooks, par exemple, parlaient français. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé le différentiel. C'est-à-dire, j'ai trouvé le regard à partir duquel il va pouvoir y avoir une observation partielle de ce qui se passe, justement, entre les Maghrébins et les Français. Et donc, j'avais quelque chose qui se mettait en place, un peu comme un roman monde, parce que le roman monde, c'est pas un roman où quelqu'un regarde le monde depuis Trifouille-les-Oies. Ce sont des mondes qui se confrontent, des mondes qui s'observent. Et à partir de là, bon, il a fallu partir à la chasse aux informations, dans la presse américaine, la presse de cinéma en particulier, mais j'ai fini par trouver à la fois de la matière première et de l'incitation à imaginer. Et puis, ça s'est mis en place. Ce qui s'est mis, en revanche, en place quant à la forme définitive du roman, c'est la montée en puissance du personnage sur lequel s'ouvre le roman. Parce qu'une vingtaine de mois avant que je boucle, le premier chapitre était encore ce qui est aujourd'hui le chapitre 2, c'est-à-dire l'arrivée proprement dite des Américains. Et Rania n'était qu'un personnage parmi d'autres d'arrière-plan à l'intérieur du roman. Et à un moment donné, je pense que le roman a réclamé de la place pour ce personnage. Et elle s'est mise à grandir et à exiger une réorganisation de l'ensemble du roman pour pouvoir devenir un vrai protagoniste. Quand on écrit un début de roman, c'est une difficulté de rythme. Il faut à la fois être allegro, c'est-à-dire il faut que ça avance, il faut que l'aventure soit lancée, il faut que ça parte, que ça rythme. Et en même temps, il faut un mouvement ou des moments plus lents, plus andante, pour avoir le temps de mettre en place les arrière-plans, pour avoir le temps de mettre en place ce qu'est aussi un roman, c'est-à-dire, au fond, une petite assemblée en mouvement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, un personnage qui s'empare de l'action et qui emporte l'action avec lui. Et puis derrière, cette petite assemblée, ce collectif qui se met en place. Et c'est vrai que le concerto numéro 4 de Beethoven me paraissait, entre l'alternance du piano et de l'orchestre d'un côté, et puis le tempo qui se donne mieux, c'est-à-dire allegro moderato, paraissait correspondre un peu à cette gageure que j'essayais de suivre.
Est-ce que d'entendre la musique vous donne envie de rajouter une dernière chose, Eddie Cadeau ?
Non, après ça, c'est très difficile d'ajouter des paroles. Je préfère rester sur Brendel et Simon Rattle.
Et nous, sur ces premières pages des Prépondérants, votre nouveau roman qui paraît aux éditions Gallimard. Merci, Eddie Cadeau.
Merci.
C'était Eddie Cadour, qui nous présentait « Les prépondérants » à paraître aux éditions Gallimard. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Juan Richard Dufour.